Et donc on va commencer avec des lectures de poèmes de Mahmoud Darwish, qui est un poète arabe palestinien. Voilà, donc il y aura deux poèmes et qu'on va écouter en arabe et puis qu'on traduira après en
Tu me
français.
feras une traduction, ouais.
Ouais, parce qu'on parle couramment arabe évidemment.
Et...
Et puis après,
Après, une lecture de texte d'un bouquin d'SF?
ouais, d'un
Ouais,
bouquin de
oui.
science-fiction qui s'appelle
Qui s'appelle L'usage des armes,
voilà,
tout
L'usage
simplement.
des armes, tout simplement.
Et on
C'est
reparlera vite
d'actualité.
fait d'une sortie d'un magazine qui était sorti l'été dernier, qui s'appelle Z, c'était le numéro 8, qui parlait de la banlieue de Lyon, de Vénissieux et de tout ce qui se passe autour des luttes qui s'étaient passées, qui ont eu lieu dans ce quartier. Et on finira sur de la musique, comme d'habitude.
Ouais,
On
voilà.
écoute le premier poème.
Régis, t'es chaud? Eh ben,
ومثلنا سار
c'est
المسيح
parti.
على البحيرة السرت في رواي لكي نزلت على الصليب لأني أخشى العلو ولا أبشر بالقيامة لم أغير غير إيقاعي لأسمع صوت قلبي واضحا للملحمين النسور ولي أنا طوق الحمامة نجمة مجهورة فوق السطوح وشارع يغدى إلى الميناء هذا البحر لي هذا الهواء الرطب لي هذا الرصيف وما عليه من خطاي وسألني المنوى لي ومحطة الباص القديمة لي ولي شبحي وصاحبه ونية النحاس وآية الكرسي والمفتاح لي والباب والحراس والأجراس لي حزوة الفرس التي طارت عن الأسوار لي ما كان لي وقصاصة الورق التي أنزعت من الإنجيل لي والملح من أثر الدموع على جدار البيت لي واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي بخمسة أحرف أفقية التكوين لي ميم المتيم والميتم والمتمم ما ماضي حاء الحديقة الحبيبة حرتان وحسرتان ميم المقامر والمعاد المستعد لموتي الموعود منفيا مريض المستشفى وواو الوداع الوردة الوسطى ولاء الوالدة أينما وجدت ووعد الوالدين دال الدليل الدرب دمعة دارة درست ودوري يدلني ويدميني وهذا الأسم لي ولأصدقائي أينما كانوا ولا جسدي المؤقت حاضرا أم غائبا متران من هذا التراب سيكفيان الآن لي متر 75 سنتيمتر والباقي لزهرة فوضى اللون يشربني على مهل ولي ما كان لي أمس وما سيكون لي قدي البعيد وعودة الروح الرشيد كأن شيء لم يكن وكان شيء لم يكن جرح طفيف في ذراع الحاضر العبس والتاريخ يسخر عن ضحاياه ومن أبطاله يلقى عليهم نظرة ويمر هذا البحر لي هذا الهواء الرطب لي واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الرحيل فلست لي أنا لست لي أنا لست لي من أنا دون منفى قريب على
Voilà, donc ça c'était le premier poème donc de Mahmoud Darwish. Je vous lis directement la traduction, puis après on a quand même causé. Comme le Christ sur le lac, j'ai marché dans ma vision, mais je suis descendu de la croix car je crains l'altitude et n'annonce pas la résurrection. Je n'ai changé que ma cadence, pour entendre net la voix de mon cœur. Aux épiques, les aigles et pour moi, le collier du pigeon. Une étoile abandonnée sur les toits et une ruelle menant au port. Cette mer m'appartient, cet air humide m'appartient, ce quai et ce qu'il porte de mes pas et de mon sperme m'appartiennent. Et le vieil arrêt du bus m'appartient, et m'appartiennent mon fantôme et son maître. Les ustensiles de cuivre, le verset du trône, la clé, la porte et les gardes et les cloches et le fer de la jument. Envolé des remparts m'appartient. Et m'appartient ce qui est mien, la citation de l'évangile et le sel laissé par les larmes sur les murs de la maison. Et mon nom, quand bien même je le prononcerai mal, mon nom, fait de cinq lettres horizontales, m'appartient. Le mime du fou d'amour de l'orphelin, de qui accomplit le passé, le ha, du jardin, de l'aimé, de deux perplexités et de deux peines, le mime de l'aventurier, du malade de désir, de l'exilé apprêté et préparé à sa mort annoncée, le wav de l'adieu, de la rose médiane, de l'allégeance à la naissance ou qu'elle advienne, de la promesse des pères et des mères, le dalle du guide du chemin, de la larme d'une demeure effondrée et d'un moineau qui me cajole et m'ensanglante. Ce nom m'appartient. Et il appartient à mes amis, où qu'ils se trouvent. Et mon corps passager, présent ou absent, m'appartient. 2 mètres de cette tourbe suffiront désormais. 1 mètre et 75 centimètres pour moi. Et le reste pour des fleurs aux couleurs désordonnées qui me boiront lentement. Et m'appartenait ce qui m'appartenait, mon passé, et ce qui m'appartiendra. Mon lendemain lointain et le retour de l'âme prodigue. Comme si rien n'avait été. Comme si rien n'avait été. Rien qu'une blessure légère au bras du présent absurde. Et l'histoire se rit de ses victimes et de ses héros. Et leur jette un regard et passe. Cette mer m'appartient, cet air humide m'appartient. Et mon nom, quand bien même je le prononcerai mal, mon nom, gravé sur le cercueil, mon nom m'appartient. Mais moi, désormais plein, de toutes les raisons du départ, moi, je ne m'appartiens pas. Je ne m'appartiens pas. Je ne m'appartiens pas. Alors ça, c'est le premier poème que...
C'était quoi le titre ?
C'est Mural. Ce poème-là, en fait, c'est un super long poème. Donc là, c'est qu'un tout petit bout de...
Ah, c'est un extrait.
C'est un extrait, ouais. C'est un extrait. Il écrit ça en 99, Mahmoud Darwish. Donc Mahmoud Darwish, il naît en 42, près de Saint-Jean d'Acre, donc en Palestine. C'est un auteur palestinien, arabe. Il meurt en 2008 à Houston. Et c'est considéré comme une espèce des plus grands poètes arabes contemporains. Mm-hmm. Et là, en 99, il subit a priori une opération chirurgicale périlleuse, enfin une histoire de...
L'appendice.
Non, pas du tout. Un truc du cœur. Ouais. Plutôt, il se fait opérer du cœur, je sais pas quoi. Il est dans le coma plusieurs jours, et de cette expérience qui marque un tournant décisif dans sa vie, a priori, il écrit ce long poème Mural.
D'accord.
Que pas mal de gens considèrent comme son chef-d'œuvre.
Son chef-d'œuvre.
Voilà, et en tout cas, son œuvre la plus ambitieuse. Et à travers ce poème-là, il explore les mystères de la mort, il repense son propre destin à la lumière des grands textes fondateurs, notamment les mythes de la mort et de la résurrection au Proche-Orient, d'où ce pourquoi il parle du Christ. Quoi.
D'accord.
Et voilà, il parle aussi de ses rapports intimes à la femme, au langage, à l'histoire, etc. C'est un poète qui est assez surprenant parce qu'effectivement, il parle de manière très franche de tout ce qu'il vit et de son intimité. C'est quelqu'un qui... Donc, qui est palestinien, qui naît en Palestine, puis qui, au bout de, je crois, quand il a 3 ou 4 ans, ses parents s'exilent. Et puis après, il revient en Palestine, son village s'est fait raser. Il y a une colonie juive à la place, etc. Après, il repart au Liban, quand le Liban se fait attaquer par Israël. Il fait partie de l'OLP, etc., etc. C'est un mec qui est hyper présent dans toute une partie de l'époque contemporaine. Enfin, entre, je sais pas quoi, 60 et 2000, quoi.
Ok. Tu nous as choisi un autre extrait.
Mais tout à fait.
Un autre poème.
Ouais. Et ce poème, c'est « Qui suis-je sans exil ?» Et du coup, là, c'est donc un autre recueil. Hein. Là, ce qu'on vous lit, c'est... Enfin, en tout cas, le bouquin qu'on a chopé, qui est une traduction bilingue français-arabe, c'est une anthologie. Une anthologie de 1992 à 2005, des textes qu'il a écrits entre ces deux... ce moment-là. Et donc là, c'est le recueil Le lit de l'étrangère, qui est publié en 99 et qui est entièrement consacré à l'amour, et à l'intérieur duquel Darwish lance un double défi. C'est là à son public, qui s'attendait plutôt à des poèmes célébrant les retrouvailles entre le poète exilé et la mère patrie, parce que c'est un auteur qui chante pas mal son amour pour son pays, pour la Palestine, etc., mais au vu de ce qu'il vit, comme ce que le pays et toute la population vit, etc., à ce moment-là, enfin puis encore maintenant. Et voilà, donc le double pari, c'est son public qui pensait qu'il allait chanter les retrouvailles avec la mère patrie, et l'autre, c'est un défi à lui-même, c'est qui s'impose la lourde tâche de ressusciter les ténors de l'amour courtois. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'amour courtois.
Ouais, pas trop.
C'est l'écriture... c'est une espèce de façon de théorie de l'amour, qui est un amour assez lointain, enfin un amour très pensé, très fantasmé, très platonique, etc. Mais voilà, il y a des espèces de ténors d'amour courtois dans les poètes arabes, tels Marjoun, Jamil, voilà, tout en dialoguant discrètement sous la forme de sonnets avec la poésie occidentale.
Okay.
Et donc ça, c'est un peu ce qu'ils font de ce recueil-là, son histoire de l'amour. Et là, il parle de l'exil et de... Bon, enfin, vous allez entendre en tout cas en arabe d'abord, et puis après on traduit en français.
Man ana duna manfa, qarib ala daffat al-nahri, kal-nahri, yarbituni bi-ismi al-ma'u la shay, yurji'uni min ba'idi ila nakhlati, la salamu, wa la al-harbu, لا شيء يدخلوني في كتاب الإنجيل لا شيء لا شيء يمض على ساحل الجزر والمد ما بين دجلة والنيل لا شيء ينزلني من مراكب فرعون لا شيء يحملني أو يحملني فكرة لا الحنين ولا الوعد ماذا سأفعل ماذا سأفعل دون منفى وليل طويل يحدق فوق الماء يربطني باسمك لا شيء يأخذني من فراشات حلمي إلى واقع لا التراب ولا النار ماذا سأفعل من دون وردي سمرقد ماذا سأفعل في ساحتي تصقل المنشدين بحجارها القمرية صرنا خفيفين مثل ما زلنا في الرياح البعيدة صرنا صديقين للكائنات الغريبة بين القيوم وصرنا طليقين من جاذبية الأرض الهوية ماذا سنفعل ماذا سنفعل من دون منفى وليل طويل يحدق في الماء لا يبقى مني سواء ولا يبقى منك سواي قريبا يمسد فخص قريبتي يا قريبة ماذا سنصنع فيما تبقى لنا من هدوء وغيلولة بين أسطورتين ولا شيء يحملنا لا الطريق ولا البيت هل كان هذا الطريق كما هو منذ البداية أم إن أحلامنا وجدت فرسا من خيول المقول على تل فاستبدلنا وماذا سنفعل ماذا سنفعل من دون منفى
Qui suis-je sans exil? Étranger comme le fleuve au bord du fleuve. L'eau m'attache à ton nom. Rien ne me ramène de mon lointain à mon palmier. Ni la paix ni la guerre, rien. Rien ne m'incorpore aux évangiles, rien. Rien ne scintille dans le sac et le ressac entre le Tigre et le Nil. Rien ne me débarque des vaisseaux des pharaons. Rien ne me porte ou me fait porter une idée. Ni le désir ni la promesse. Que faire? Que faire sans exil et sans une longue nuit qui scrute l'eau? L'eau m'attache. L'eau m'attache à ton nom. Rien ne me porte des papillons de mon rêve à mon réel, ni le sable ni le feu. Que faire sans les roses de Samarcande? Que faire sur une place qui polie les chantres avec ses pierres lunaires? Nous voici légers comme nos demeures dans le vent lointain. Nous voici amis des créatures merveilleuses entre les nuages et soustraits à la pesanteur de la terre identitaire. Que ferons-nous? Que ferons-nous sans exil et sans une longue nuit qui scrute l'eau? L'eau m'attache à ton nom. Il ne reste de moi que toi. Et ne reste de toi que moi, étranger qui masse la cuisse de son étrangère, ô étrangère. Que ferons-nous de la tranquillité qui nous reste, et d'une sieste entre deux mythes? Et rien ne nous porte, ni la route, ni la maison, ce chemin fut-il de tout temps le même. À moins que nos rêves ne nous aient remplacés, après avoir trouvé chez les Mongols une jument sur la colline. Et que ferons-nous sans exil? Voilà, donc ça c'était un des poèmes du recueil, donc... Recueil qui est le lit de l'étrangère et c'est le titre c'était Qui suis-je sans exil et il parle c'est hyper récurrent qu'il parle de voilà de l'exil de l'histoire de voilà de quitter une terre qui est familière etc de revenir repartir enfin, voilà. Moi c'était un poème enfin en fait je connaissais pas du tout Mahmoud Darwish et a priori c'est un type qui est juste hyper connu dans tout le monde de la poésie et tout le monde arabe.
Ok, yes. Voilà, on enchaîne avec de la musique.
Allez.
Une pause avec un groupe qui s'appelle L'Enfance Rouge. Alors c'est un groupe franco-italien qui a beaucoup travaillé avec des musiciens arabes, en partie avec des Tunisiens. Ils ont fait un album qui s'appelle Trapani Halkal Wadi. C'est donc dans une idée de voyage entre Trapani, qui est un port en Occident, du côté nord de la Méditerranée, en Italie je crois, et Halkal Wadi qui est du côté africain. C'est sorti en 2008. Ils ont fait donc tout un album autour de cette idée de traverser la Méditerranée. C'est du rock expérimental teinté de musique arabe. C'est sorti sur le label T-Rec en 2008 et le titre s'appelle Ortanto.
Thank you.
Oh, on a coupé un peu sec.
Il a coupé un peu sec, là. Pour information,
on est toujours retenu en otage
dans le studio de Radio Campus, mais on a réussi à enlever les vis de la serrure. On devrait pouvoir s'en sortir.
C'est donc la porte qui nous retient en otage. Enfin, pas d'inquiétude, il n'y a rien d'autre qui nous... On est juste bloqué à l'intérieur. Voilà.
Ouais. On devrait s'en sortir.
Mais on
c'était L'Enfance Rouge avec le titre Ortanto. On continue ?
Allez, on continue.
Une autre lecture ?
Une autre lecture, c'est donc Clark Kent qui va nous la lire. Tu commences, puis quand t'en as marre, tu nous passes.
D'accord. Réveillez-vous. Il se réveilla. Le noir se raidit sous les couvertures en se demandant qui pouvait bien lui parler ainsi. Personne ne lui parlait sur ce ton, plus maintenant. Même à moitié endormi, après ce réveil inattendu, en plein milieu de la nuit peut-être, il discernait dans cette voix une nuance qu'il n'avait pas entendue depuis 2 décennies, voire 3. L'impertinence, l'irrespect. Il sortit la tête de la couverture protectrice et, retrouvant l'atmosphère tiède de la chambre, regarda autour de lui pour voir qui, dans la lumière rare dispensée par une unique lampe, osait lui adresser la parole sur ce ton. Il s'alarma l'espace d'une seconde. Quelqu'un avait-il pu franchir la barrière des gardes et des écrans de sécurité ? Mais la peur céda promptement la place à une furieuse envie de savoir qui se montrait assez effronté pour lui parler ainsi. L'intrus était assis dans un fauteuil, un peu en arrière du pied du lit. Il avait quelque chose de bizarre, ce qui était déjà bizarre en soi. Quelque chose d'inhabituel, d'indéfinissable, voire d'inhumain. On avait l'impression de se trouver en présence d'une projection légèrement à l'oblique. Ses vêtements aussi étaient étranges. Ample, bigarré même dans la faible lueur de la lampe de chevet. L'homme était habillé en clown ou en bouffon, mais son visage un peu trop symétrique était sévère, méprisant. Cette étrangéité en rendait l'interprétation difficile. Il voulut chercher à tâtons ses lunettes, mais c'était seulement le sommeil qui lui embrumait les yeux. Les chirurgiens lui avaient greffé de nouveaux yeux 5 ans auparavant, mais après 60 ans de myopie, il n'avait pu se débarrasser de cette habitude. Tous les matins, au réveil, il cherchait des lunettes qui n'existaient pas. Un inconvénient bien mineur, songeait-il, invariablement. Et maintenant, avec le nouveau rétro-têtement anti-âge, sa vue s'éclaircit. Il se dressa sur son séant, observant l'homme dans le fauteuil et commença à croire qu'il rêvait ou qu'il voyait des fantômes. L'homme semblait jeune. Il avait un visage large, au teint hâlé et des cheveux noirs attachés derrière sa tête. Mais si les esprits, les morts vinrent à l'esprit, c'était pour une autre raison, en rapport avec ses yeux noirs, ses puissants fonds et le dessin non humain de ses traits. « Bonsoir, ethnarque. » La voix du jeune homme était lente et mesurée. D'une certaine manière, c'était la voix d'un individu beaucoup plus âgé, suffisamment vieux pour que l'ethnarque se sente brusquement jeune par comparaison. Cette voix le glaça sur place. Son regard fit le tour de la pièce. Qui était donc cet homme ? Comment était-il entré ? Le palais se voulait imprenable. Il y avait des gardes partout. Que se passait-il donc ? L'effroi revint. La fille de la veille gisait, immobile, à l'autre bout du grand lit, silhouette informe sous les couvertures. Au mur, sur la gauche de l'ethnarque, une paire d'écrans en veilleuse reflétait le faible éclat de la lampe de chevet. Il avait peur. Mais il était à présent tout à fait réveillé et réfléchissait à toute allure. Il y avait une arme cachée dans la tête du lit. L'homme, assis dans le fauteuil, ne semblait pas armé. Mais alors que faisait-il là ? L'arme, toutefois, ne devait être utilisée qu'en dernier recours. Non, la solution, c'était le code vocal. Les micros et les caméras, dont la pièce était truffée, étaient pour l'heure en stand-by. Leur circuit automatique attendait d'être activé par une expression bien définie. Parfois, il souhaitait trouver dans cette chambre l'intimité absolue. À d'autres moments, il désirait y faire un enregistrement à lui seul destiné. Et puis, naturellement, il n'était pas exclu qu'un individu non autorisé s'introduise dans cette pièce, quelle que soit la vigilance des services de sécurité. L'ethnarque l'avait toujours su. Il s'éclaircit la voix. « Tiens, tiens, quelle surprise !» dit-il calmement, d'un ton égal. Content de lui, il eut un petit sourire. Son cœur, qui 11 ans auparavant, avait appartenu à une jeune anarchiste athlétique, battait vite, mais pas au point de l'inquiéter. Il hocha la tête. « Vraiment, quelle surprise !» répéta-t-il. Voilà, c'était fait. Une sonnerie d'alarme devait déjà retentir dans la salle de contrôle du sous-sol. Dans quelques secondes, les gardes allaient se bousculer à sa porte, ou bien ils préféreraient ne pas prendre ce risque et ouvriraient les réservoirs de gaz au plafond. Alors, il y aurait une explosion, et un brouillard aveuglant les plongerait tous deux dans l'inconscience. Le danger était que cela lui déchire les tympans, songea-t-il en déglutissant. Mais on pourrait toujours en prélever une paire sur un dissident en bonne santé. Peut-être ne serait-on pas obligé d'en arriver là. La rumeur prétendait que le rétro-traitement permettait de faire repousser certaines parties du corps. Ma foi, quel mal y avait-il à acquérir de la force, même au plus profond de son corps. Un stock de remplacement. Il appréciait le sentiment de sécurité que cela conférait. « Tiens, tiens !» s'entendit-il dire encore, en cas où les circuits n'auraient pas capté la phrase code la première ou la deuxième fois. « C'est vraiment une surprise !» Les gardes allaient sans doute arriver dans les secondes qui suivraient. Le jeune homme, vêtu de couleurs vives, sourit. Son corps s'infléchit de manière bizarre, et il se pencha en avant jusqu'à poser ses coudes sur le bois sculpté du pied du lit. Ses lèvres remuèrent et le résultat fut une sorte de sourire. Il plongea la main dans une poche de son pantalon, bouffant, et sortit une petite arme noire qu'il pointa sur l'ethnarque en disant « Votre code ne fonctionnera pas, ethnarque Karian. Il ne se passera rien qui soit une surprise pour moi. Je n'en dirai pas autant pour vous. Le poste de contrôle du sous-sol est aussi inopérant que le reste. »
L'ethnarque Karian regarda le petit revolver. Il avait vu des pistolets à eau qui lui avaient fait plus d'effet. Mais qu'est-ce qui se passe? Se peut-il réellement qu'il soit venu me tuer? Cet homme n'était certainement pas venu en assassin et de toute manière, un véritable assassin l'aurait abattu dans son sommeil. Plus cet individu resterait longtemps assis là, plus il serait en danger. Qu'il ait ou non rompu les communications avec le centre de contrôle. Donc il était peut-être fou, mais ce n'était pas un assassin. Il était tout simplement grotesque d'imaginer qu'un assassin sérieux, un professionnel, se comporterait ainsi. Mais d'un autre côté, seul un assassin extrêmement compétent et professionnel jusqu'au bout des doigts aurait pu forcer les barrages de sécurité du palais. Donc, l'ethnarque Karian s'efforça de convaincre son cœur brusquement emballé, en pleine mutinerie. Donc, où étaient ces foutus gardes? Il repensa au revolver dissimulé dans la tête du lit et derrière lui. Le jeune homme croisa les bras de sorte que l'arme n'était plus pointée sur l'ethnarque. « Je peux vous raconter une petite histoire, cela vous ennuierait-il »«
C'est bien cela, il doit être fou. »«
Non, non, allez-y, racontez-moi donc votre petite histoire, » répondit l'ethnarque de sa voix la plus amicale. « Au fait, comment vous appelez-vous? Manifestement, sur ce sujet, vous avez l'avantage sur moi. »« En effet, n'est-ce pas ?» fit la voix âgée, s'échappant des lèvres, pourtant jeune. « En réalité, ce n'est pas une histoire que j'ai à raconter, mais deux. »« Mais il y en a une que vous connaissez presque entièrement. Je vais vous la narrer, les narrer simultanément. » On va voir si vous savez les distinguer l'une et l'autre. Je... Chut, fit l'autre, en portant le petit pistolet à ses lèvres. L'ethnarque jeta un regard en coin à la fille du côté opposé du lit. Il se rendit compte que l'intrus et lui-même avaient jusque-là parlé à mi-voix. S'il pouvait réveiller la fille, peut-être l'homme la prendrait-il pour cible, ou du moins peut-être détournerait-elle son attention le temps qu'il s'empare de l'arme cachée. Grâce à ce nouveau traitement, il était plus rapide qu'il ne l'avait été de 20 ans. Mais nom de nom, où sont ces foutus gardes? Écoutez un peu, jeune homme, rugit-il. Voulez-vous me dire ce que vous faites là, hein? Sa voix, qui s'était fait entendre dans des amphithéâtres et sur des places publiques sans la moindre amplification, résonna dans la pièce. Bon sang, les gardes du sous-sol auraient dû pouvoir l'entendre sans l'aide des microphones. Or, la fille, au bout du lit, ne bougea même pas. Le jeune homme affichait un sourire ironique. Tout le monde dort, ethnarque. Il n'y a que vous et moi, et maintenant, l'histoire dont je vous parlais. Qu'est-ce que... s'étrangla l'ethnarque en repliant ses jambes sous la couverture. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? L'intrus eut l'air quelque peu surpris. « Eh bien, je suis venu vous chercher, ethnarque. Vous allez être enlevé. » Et maintenant, ajouta-t-il en déposant son arme sur le large rebord du pied du lit, l'ethnarque la regarda fixement, trop loin pour qu'il puisse l'attraper. Mais « L'histoire, » reprit l'intrus, en se laissant aller contre le dossier de son fauteuil. « Il était une fois bien loin d'ici, de l'autre côté du puits de gravité, une terre magique où il n'existait ni roi, ni loi, ni aise d'argent, ni propriété, mais où chacun vivait en prince, où les gens étaient très bien élevés et ne manquaient de rien. » Ces gens vivaient en paix, mais ils s'ennuyaient ferme, car le paradis peut faire cet effet au bout d'un moment. Ils se lancèrent donc dans les bonnes œuvres. Disons qu'ils se mirent à rendre visite aux gens plus défavorisés. Et toujours ils s'efforçaient d'apporter avec eux ce qu'ils considéraient comme le bien le plus précieux, la connaissance, l'information. une information aussi étendue que possible, car ces gens avaient une étrange particularité. Ils méprisaient les rangs et les grades et détestaient les rois, comme tous ceux qui relèvent de la hiérarchie, même les ethnarques. Le jeune homme eut un petit sourire. L'ethnarque l'imita. Puis il s'essuya le front et remua un peu dans son lit, comme pour s'installer plus confortablement. Son cœur battait toujours à grands coups. Or, à une époque, une force terrible menaça de réduire les bons efforts à néant, leurs bons efforts à néant. Mais ils y résistèrent, et ce furent eux qui l'emportèrent. Ils sortirent du conflit encore plus fort qu'avant, et s'ils n'avaient pas éprouvé un tel désintérêt pour le pouvoir en tant que tel, ils auraient été extrêmement redoutés. Pourtant, il se trouve qu'ils ne l'étaient guère, par rapport à l'étendue de leur pouvoir. Et ces pouvoirs, ils s'amusaient entre autres à les exercer en se mêlant des affaires des sociétés qui, à leurs yeux, pouvaient tirer bénéfice de leurs interventions. Et la méthode la plus efficace en la matière, c'est d'entrer en contact avec les gens situés tout en haut de l'échelle sociale. Un grand nombre d'entre eux deviennent médecins particuliers des plus hauts dignitaires, et à coup de traitements et de médicaments qui semblent magiques aux peuples relativement primitifs dont ils les préoccupent, ils améliorent les chances de survie des dirigeants qu'ils ne méritent. Et c'est ainsi qu'ils préfèrent œuvrer, en offrant la vie, voyez-vous, plutôt qu'en distribuant la mort. On peut considérer qu'ils manquent de fermeté, étant donné leur grande répugnance à tuer, et peut-être s'accorderait il à le reconnaître. Mais ce manque de fermeté est comparable à celui de l'océan, et ma foi, demandez à n'importe quel marin si l'océan est frêle et inoffensif. Oui, je vois, fit l'ethnarque en reculant, encore un peu dans le lit, en glissant un oreiller derrière son dos et en vérifiant sa position par rapport à la cachette de l'arme. Son cœur battait maintenant à tout rompre. Autre tendance de ces gens, autre façon de léguer la vie plutôt que la mort, ils offrent aux dirigeants de certaines sociétés la seule chose que ne saurait leur apporter toute la richesse, toute la puissance dont ils disposent, le remède contre la mort. Le retour à la jeunesse. Brusquement plus intrigué que terrifié, l'ethnarque regarda fixement le jeune homme. Voulait-il parler du rétro-traitement ? Non, ouais, c'est ça, rétro-traitement anti-âge. Ah, je vois que les choses commencent à se mettre en place dans votre tête, n'est-ce pas, sourit le jeune homme. Eh oui, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien du processus que vous avez suivi, ethnarquérien, et pour lequel vous avez payé l'année écoulée, pour lequel vous avez promis de payer, permettez-moi de vous le rappeler, mais pas seulement en platine. Alors, vous vous souvenez maintenant ? Je ne sais pas très bien. L'ethnarque Kerian gagnait du temps. Du coin de l'œil, il apercevait le panneau dissimulant l'arme dans la tête du lit. « Vous aviez promis de mettre fin au massacre des Yurikam, vous vous rappelez ? J'ai dû dire que j'allais revoir notre politique de ségrégation et de relogement dans les... » « Non, » coupa le jeune homme en agitant la main. « Je parlais des massacres, ethnarque. Les trains de la mort, vous voyez ? Les trains dont les gaz d'échappement finissent par sortir de la dernière voiture. » Le jeune homme afficha une espèce de sourire ricanant et secoua la tête. « Alors, ça ne vous évoque rien, ça, non ? Je ne vois absolument pas de quoi vous voulez parler, » répliqua l'ethnarque. Ses paumes transpiraient. Il les sentit froides et luisantes et les essuya sur les draps. S'il devait tenter le coup, il ne fallait pas que le revolver lui glisse des mains. Celui de l'intrus reposait toujours sur les pieds du lit. Je suis bien sûr que si, en fait, j'en ai même la preuve. Si certains membres des forces de sécurité ont commis des actes excessifs, croyez qu'ils seront sévèrement... Nous ne sommes pas en conférence de presse, ethnarque. L'homme se pencha légèrement en arrière dans son fauteuil, s'éloignant du pistolet par la même occasion. Tremblant, l'ethnarque se contracta. « En réalité, vous avez conclu un marché, mais vous n'avez pas tenu vos engagements. Je suis donc venu réclamer mon dû conformément à la clause de non-respect du contrat. On vous avait averti, ethnarque. Ce qui a été donné peut être repris. » L'intrus se renversa encore plus franchement en arrière dans son fauteuil. Il examina la pièce plongée dans la pénombre, puis adressant un hochement de tête à l'ethnarque, tout en nouant ses mains derrière la tête. « Dites au revoir à tous là, ethnarque Kerian. Vous êtes... » L'ethnarque se tourna, heurta du coude le panneau secret de la section de bois de la tête de lit, pivota sur elle-même, il arracha l'arme de son support, revint face à l'homme et le pointa sur lui. Puis il trouva la détente et la pressa. Rien ne se passa. Le jeune homme le regardait, les mains toujours sur la nuque, tout le corps animé d'un lent mouvement de va-et-vient sur son siège. L'ethnarque appuya encore plusieurs fois sur la détente. « Ça marche mieux avec ça, » fit l'intrus en passant une main dans sa poche de poitrine pour en sortir une douzaine de balles, qu'il jeta sur le lit, au pied de l'ethnarque. Les balles luisantes s'entrechoquèrent en roulant sur le drap et se rassemblèrent dans un pli. L'ethnarque Kerian les regarda sans broncher. Je vous donnerai tout ce que vous voudrez, » annonça-t-il. « Tout, n'importe quoi. Je peux vous donner tout ce dont vous n'avez jamais rêvé, je peux... »« Tout ça ne m'intéresse pas, » coupa le jeune homme, en secouant la tête. « Mon histoire n'est pas encore terminée. Voyez-vous ces gens dont je vous parlais, ceux qui manquent de fermeté et préfèrent donner la vie plutôt que la mort. Eh bien, quand quelqu'un bafoue le contrat qu'il a passé avec eux, ou quand il tue après avoir promis de ne plus le faire, ces gens ne cherchent pas pour autant à l'assassiner en retour. Ils préfèrent utiliser la fameuse magie, ainsi que leur précieuse compassion, pour, là encore, accomplir une bonne action. Alors ce quelqu'un disparaît. L'homme se redressa à nouveau dans son siège et prit appui sur le pied du lit. L'ethnarque, lui, se contentait de le fixer en tremblant de tous ses membres. « Ces gens pleins de bonté font disparaître les méchants, » reprit le jeune homme. Mais d'abord, ils envoient d'autres individus les récupérer. Et ces individus, les récupérateurs, aiment insuffler la peur de la mort à ceux qu'ils viennent chercher et ont tendance à porter des habits passe-partout. Et naturellement, grâce à la magie, ils n'ont pas le moindre mal à s'introduire dans les palais les mieux gardés. L'ethnarque déglutit et d'une main, qui tremblait furieusement, finit par lâcher son arme inutile. « Attendez un peu, » fit-il en s'efforçant de dominer sa voix. Les draps étaient trempés de sueur. « Vous voulez dire que nous voici parvenus pratiquement à la fin de l'histoire ?» l'interrompit le jeune homme. « Ces gens si gentils, que vous jugeriez insuffisamment fermes, comme je l'ai déjà dit, enlèvent les méchants et les emportent avec eux. Ils les mettent quelque part où ils ne peuvent pas faire de mal. Ce n'est pas un paradis, mais ça ne ressemble pas non plus à une prison. Là, les méchants sont parfois obligés d'écouter les bons leur dire à quel point ils ont été méchants. » Ils n'ont plus jamais l'occasion de changer le cours de l'histoire, mais ils vivent confortablement, en toute sécurité, et ils meurent en paix, grâce aux gentils. Certains disent peut-être que les bons ne sont pas assez fermes. Mais les bons, pas assez fermes, eux, disent qu'en général, les crimes commis par les méchants sont tellement atroces qu'il n'existe aucun moyen connu de leur faire endurer, fût-ce un millénième, de la souffrance et du désespoir. Alors à quoi bon les châtier ? Compléter la vie du tyran par sa propre mort reviendrait simplement à commettre une monstruosité supplémentaire. Sur ces derniers mots, il ramassa son petit pistolet, et l'enfouit dans une des poches de son pantalon. Puis il se remit lentement sur les pieds. Le cœur de l'ethnarque continua de battre à tout rompre, mais on voyait maintenant des larmes dans ses yeux. Le jeune homme se baissa, ramassa quelques vêtements et les lança à l'ethnarque, qui s'en empara vivement et les serra contre sa poitrine. « Mon offre tient toujours, » déclara l'ethnarque, Kérian. « Je peux vous donner la satisfaction du devoir accompli, » soupira le jeune homme en contemplant ses ongles d'une de ses mains. « C'est tout ce que vous pouvez me donner, ethnarque. Rien d'autre ne m'intéresse. Habillez-vous, vous partez. » L'autre commença à enfiler sa chemise. « C'est votre dernier mot, » insista-t-il. Vous savez, je crois avoir découvert quelques vices nouveaux que même le vieil empire ne connaissait pas. Je suis disposé à vous les faire partager. Non, merci. Qui sont ces gens dont vous avez parlé au fait de demanda l'ethnarque en boutonnant sa chemise. Et puis-je savoir comment vous vous nommez? Contentez-vous de vous habiller. Ma foi, je continue de croire que nous pourrions parvenir à un quelconque arrangement. L'ethnarque attachait son col. Tout cela bien ridicule, mais je dois sans doute remercier le sort que vous ne soyez pas un assassin, n'est-ce pas? Le jeune homme sourit, et parut tirer quelque chose de sous un de ses ongles. Il mit ses mains dans ses poches, tandis que l'autre repoussait à coups de pied ses draps vers le fond du lit, puis ramassait ses culottes. « En effet, » répondit le jeune homme, « ce doit être épouvantable de se dire qu'on va bientôt mourir. »« Il y a plus agréable, » acquiesça l'ethnarque en enfilant une jambe, puis l'autre dans son pantalon. « Mais quel soulagement, j'imagine, quand on se voit octroyer un sursis. » L'ethnarque fit entendre un petit rire. « C'est un peu ce que doit ressentir l'homme qui se fait ramasser dans une rafle avec les autres habitants de son village et qui se dit qu'il va être passé par les armes. » musa le jeune homme en faisant face à l'ethnarque depuis le pied du lit. « Quand il apprend qu'en fin de compte, on va simplement le reloger ailleurs. » Il sourit. L'ethnarque hésita. « Un ailleurs, reprit-il, ou il se rendra en train ?» Il ressortit la petite arme noire de sa poche. « Dans un train qui contient toute sa famille, sa rue, son village tout entier. » Le jeune homme régla quelque chose sur la petite arme sombre qu'il tenait à la main, et qui finit par ne plus rien contenir que des gaz d'échappement et un grand nombre de cadavres. Il eut un sourire sans joie. Qu'en pensez-vous, ethnarque Kérian ? Est-ce en gros ce que vous ressentez ? L'interpellé s'immobilisa brusquement et regarda le revolver en ouvrant les grands yeux. Les gentils s'appellent la culture, expliqua le jeune homme. Et moi aussi, j'ai toujours pensé qu'il manquait de fermeté. Il tendit l'arme à bout de bras. Je ne travaille plus pour eux depuis quelque temps, maintenant je suis à mon compte. L'ethnarque contempla bouche bée, les yeux sombres et sans âge qui surmontaient le canon de l'arme noire. Moi, déclara l'homme, je suis Sheradin Zalkav. Il éleva le pistolet à l'auteur du nez de l'ethnarque. « Et vous, vous êtes un homme mort, sur quoi il fit feu ?» Rejetant la tête en arrière, l'ethnarque s'était mis à hurler. L'unique balle qui fut tirée se logea donc dans son palais, avant d'exploser à l'intérieur de son crâne. Son cerveau gicla sur la tête de l'isculté. Son corps s'effondra, dans les draps doux comme de la peau. Il y eut une unique convulsion, et le sang jaillit.
C'était donc un extrait de « L'usage des armes » de Yann M. Banks. C'est sorti en livre de poche. Il y a longtemps. Et voilà, il y a longtemps.
C'est un
groupe, un petit pavé de SF quand même.
Ouais, c'est un écrivain de SF assez connu, je crois, dans le milieu de la SF.
Voilà.
Voilà. Ça nous intéressait pas mal de lire cet extrait-là d'une exécution sommaire, mais pour des raisons politiques qui sont un peu plus... comment dire, un peu plus palpable, saisissable, dont on peut plus s'emparer que peut-être ce qui traverse un peu l'actualité depuis quelques jours.
Et moi, au regard aussi de l'actualité dernièrement, je voulais reparler vite fait d'un magazine qui était sorti l'été dernier, C'était le numéro 8 de la revue, enfin c'est une revue, c'est pas vraiment un magazine, c'est une revue, qui s'appelle Z. Et ce numéro 8 était consacré, alors c'est une revue qui se dit itinérante d'enquête et de critique sociale. En fait, à chaque numéro, ils vont dans d'autres endroits, ils étaient à Thessalonique, ils sont allés à Nantes, à Paris. Et ce coup-là, c'était à Vénissieux. Donc pour ceux qui ne savent pas, Vénissieux, c'est la grande banlieue de Lyon. C'est la zone, c'était la première ZUP de France. La ZUP, c'est une zone à urbaniser en priorité. Et c'était l'endroit aussi un peu central des émeutes de 81, et qui a aussi enclenché tout ce qui a pu partir de la marche, de cette fameuse marche pour l'égalité et contre le racisme dans le début-milieu des années 80. Et dans ce numéro, ils reviennent pas mal sur ça, sur cette ZUP, la ZUP des Minguettes, qui était un peu passée dans le langage courant, quoi. Les Minguettes, quand on dit les Minguettes, on a tout de suite une idée de grandes tours, de grandes bars, comme ça. Donc ça vient de là-bas. Il y a un gros dossier sur les luttes qui ont eu lieu dans ces quartiers-là, et d'où ça vient, pourquoi les gens ont été parqués là-bas, et qu'est-ce qu'ils font de leur vie, dans quoi ils travaillent. Alors, il se trouve que c'est au sud de Lyon, donc il y en a pas mal qui vont bosser, qui vont aller se prendre des maladies à la con dans les grosses boîtes
d'usines chimiques,
nucléaires, etc. Un article bien pas mal sur les luttes du logement aussi, et un gros article qui essaye de cerner, d'essayer une nouvelle définition de par l'état de la laïcité et de la fabrication du soi-disant problème musulman, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez chouette dans une perspective assez sociale, on va dire, quoi. C'est un gros pavé, il y a beaucoup de textes, superbement mis en page, plein de dessins, des jolies photos. C'est sorti en 2014, l'été dernier, donc je suis pas sûr que ce soit encore trouvable en kiosque, mais c'est commandable. Vous pouvez aller sur leur site qui s'appelle zite.fr, donc zite.fr, et le commander. C'est 10 balles. Je pense que ça vaut le coup pour essayer de comprendre un peu à l'orée de ce qui se passe en ce moment. Ça fait pas mal de matière à réfléchir. Ok, on finit cette émission avec un gros bout de musique. J'avais envie de parler de Godspeed You Black Emperor, qui va bientôt jouer à Dijon. Ce sera le 24 avril. Bon, malheureusement, ce sera à la vapeur et ce sera à 24€. Du coup,
on n'ira pas.
Mais c'est quand même un groupe vraiment, vraiment génial. C'est un collectif, en fait. C'est pas un groupe de musique, c'est un collectif. Il y a des gens qui font de la musique avec, des gens qui vont passer des films et avoir tout un discours autour de ce qu'ils font. Ça a plus de 20 ans d'existence, et quand même, en concert, j'ai eu la chance de les voir, c'est un peu magique. Il y a une petite dizaine de zikos, c'est du post-rock, hein, donc c'est de la musique instrumentale. Une petite dizaine de zikos sur scène, dans l'obscurité. Il n'y a pas de star dans ce groupe. C'est une volonté de ne pas parler non plus aux médias en tant que personne, mais en tant que collectif. Et pendant le concert, ils projettent. Il y a en fait 6 projecteurs, des vieux projecteurs à pellicule, qui projettent une énorme image derrière, qui va évidemment avec la musique, et c'est vraiment assez prenant. Ils nous viennent de Montréal, au Canada. Je vais vous passer un titre qui s'appelle Providence, sur un de leurs premiers albums qui est sorti en 97. C'était sur Constellation Records. Constellation, qui est un label, pareil, très engagé, qui fait beaucoup de post-rock, mais de toute cette mouvance assez engagée. Par exemple, Godspeed, ils n'avaient pas fait d'album depuis 10 ans, ils en ont sorti un là, il y a 2-3 ans. Ils n'en avaient pas fait 10 années précédentes, et ils ont décidé d'en refaire un à la suite du mouvement étudiant qu'il y avait eu au Canada, au Québec, ouais. Parce qu'ils ont participé à ça, et ça leur avait donné envie d'écrire et de continuer à faire de la musique.
Donc là, c'est ça qu'ils viennent jouer.
Je pense qu'ils joueront de cette pièce-là. Ouais,
je veux dire, c'est ça, c'est l'album canadien, enfin des révoltes étudiantes qui viennent jouer à Dijon.
Oui, tout à fait. Ouais, c'est ce groupe-là. Ouais, c'est ce groupe-là. On a qu'à lancer et puis dire au revoir parce que ça commence tout tranquillement. Et c'est une très grosse pièce qui dure quasiment une demi-heure, mais on n'aura pas le temps de la passer en entier. Je vous invite vraiment à écouter ce groupe, c'est génial.
Ouais. Ok,
Bon voilà, c'était Terrain Vague.
C'était Terrain Vague. La semaine prochaine, c'est donc Vacarme en Réunion. Non, ouais. Les potes, vous pouvez toujours nous retrouver sur tvnr.noblogs.org.
Ouais. Et puis on se retrouve dans deux semaines.
Deux semaines.
Ah oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Merci, Clark Ken.
Ah oui, mais...
de rien.
Tu l'as un peu lu, tu aurais pu lire plus. Mais...
j'aurais pu lire plus, oui. Oui. Mais tu m'as pas repassé le livre, en fait. Hein.
Non, c'est ça.
Tu t'étais pris par cette histoire.
On en lira d'autres.
Ouais, ça.
Il y a notamment Les Garçons Sauvages que tu voulais lire un moment, non ?
Oui. Oui. Bah, dans 15 jours. Hein.
Dans 15 jours, voilà. Les Garçons Sauvages.
Eh oui.
Super. Allez, à bientôt.
Ciao.
Ciao. Ciao. I don't go by what he says. Alors que nous sommes toujours coincés dans les studios de Radio Campus, et c'est donc effectivement une expérience intéressante que nous vivons là.
Bah moi ça va.
Toi ça va ?
Oui ça va.
Bon voilà, nous sommes... Si, s'il y a d'autres gens qui doivent faire du direct après nous, bah, c'est pas possible.
Non.
On vous le dit. Il va falloir qu'on pète la porte, je pense.
Ouais.
Voilà. Hein, Antoine, tu nous en voudras pas, mais la porte demain sera cassée.
Ouais.
Voilà. Bon, c'est parce que ton matériel est merdique.
Oui, c'est ça, ça a pas l'air d'être une très bonne qualité.
Oui, c'est ça. Bon, bah voilà, on vous tient au courant. Hein. Si d'ici une demi-heure on n'est toujours pas sorti, vous pouvez venir nous chercher.